VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Il est 18h30 en temps universel. Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, John Linden à la présentation de cette édition du mercredi 23 août 2023. Pour commencer, le sommaire. Le nom de Evgeny Prigogine, patron du groupe Wagner, figure sur la liste des passagers d'un avion qui s'est écrasé en Russie. L'Algérie ne veut pas d'une intervention militaire au Niger, son grand voisin du Sud. Les Zimbabwéens se rendent aux urnes pour des élections présidentielles, législatives et locales. En Afrique du Sud, deuxième jour du sommet des BRICS, le groupe veut étendre son influence dans le monde. Ici aux États-Unis, le premier débat républicain se tient ce soir en vue de la présidentielle de 2024. Nous vous proposerons dans la partie magazine une interview exclusive avec le ministre centrafricain de la jeunesse et des sports. Et du sport justement dans ce journal. Et un rendez-vous avec Nathalie Barge pour la Minute Éco. Mais pour commencer, le journal. Bonsoir. Un avion avec 10 personnes à son bord s'est écrasé mercredi en Russie sans laisser de survivants. Et le nom du patron du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigogine, figure sur la liste des passagers. Une information livrée pour indiquer par les agences de presse russes les derniers développements avec Dilidico.
Selon les agences RIA Novosti, TASS et Interfax, se référant à l'agence russe du transport aérien, le nom de Yevgeny Prigogine figure sur la liste des passagers de cet avion qui devait relier Moscou à Saint-Pétersbourg. Auparavant, le ministère russe des situations d'urgence avait indiqué sur Telegram que toutes les personnes à bord sont décédées. Selon lui, cet avion privé s'est écrasé près d'un village dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou. Des vidéos diffusées sur plusieurs chaînes Telegram se disant liées à Wagner montrent des débris en feu dans un champ ou encore un appareil tombant du ciel. Des images non authentifiées. Il y a deux jours, M. Prigogine était apparu dans une vidéo où il affirmait se trouver en Afrique. Dans son message, il disait travailler à rendre la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre. Yevgeny Prigogine avait été à l'origine en juin d'une rébellion dirigée contre l'état-major russe et le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu.
L'Algérie, fermement opposée à toute intervention militaire au Niger, a envoyé mercredi son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, en tournée au Nigeria, au Bénin et au Ghana, afin d'aider à trouver une issue à la crise, a annoncé la diplomatie algérienne. Le point avec Rosine Monezero.
Le ministre Ahmed Attaf, mandaté par le président Abdelmadjid Tebboune, entame aujourd'hui des visites de travail au Nigeria, au Bénin et au Ghana, a annoncé le ministère, précisant qu'il va mener des consultations sur la crise au Niger et des moyens pour faire face avec ses homologues. Le président Tebboune a indiqué le 6 août qu'il refusait catégoriquement toute intervention militaire extérieure au Niger, qui représente, selon lui, une menace directe pour l'Algérie. Dans quelle situation se trouvent aujourd'hui les pays qui ont connu l'intervention militaire, s'est demandé le chef d'État algérien, avant d'ajouter « Regardez où en sont la Libye et la Syrie ». Après le renversement du président nigérien Mohamed Bazoum, la CDAO a annoncé son intention de déployer une force ouest-africaine pour rétablir l'ordre constitutionnel en cas d'échec d'une solution diplomatique. Le Mali et le Burkina Faso sont prêts à entrer dans la bataille aux côtés du Niger, a souligné M. Tebboune, en estimant qu'en cas d'opération militaire, tout le Sahel va s'embraser.
Au Sénégal, un influent chef religieux a appelé l'opposant Ousmane Sonko à cesser sa grève de la faim, ajoutant sa voix à une multitude d'appels en ce sens, affirme l'entourage de M. Sonko. Ousmane Sonko a entamé sa grève de la faim le 30 juillet après son arrestation. Il est hospitalisé depuis le 6 août et a été admis la semaine dernière dans un service de réanimation. Les États-Unis ont fait part mardi soir de leur réserve à l'égard du projet de réforme constitutionnelle en Centrafrique et appelé les autorités centrafricaines à annoncer une date pour la tenue de nouvelles élections. Dans le camp présidentiel, cette constitution inaugure une nouvelle ère pour le pays. Nous écouterons d'ailleurs le ministre centrafricain de la jeunesse et des sports en seconde seconde partie de ce journal. La justice gabonaise a, elle, ouvert une enquête mardi soir pour des propos qui laissent présager une atteinte à la sûreté de l'État après la diffusion de l'enregistrement d'une conversation attribuée à M. Ondo Ossa, candidat de consensus à la présidentielle de samedi, et Alexandre Barrault-Chambrier, une autre figure de l'opposition. La principale plateforme de l'opposition Alternance 2023, dont les deux personnalités sont issues, a démenti catégoriquement la véracité et l'authenticité de cette conversation. Au Congo-Brazzaville, pendant ce temps, le parti du président Denis Sassou Nguesso a remporté sans surprise les élections sénatoriales de dimanche. Le Parti congolais du travail, ou PCT, a gagné 52 sièges à Brazzaville et dans tous les départements du centre du Nord Congo. Le parti au pouvoir totalise avec ses alliés 61 sièges sur 72, selon le ministre de l'Intérieur Raymond Zéphirin Boulou, qui a lu les résultats à la télévision nationale. Les Zimbabwéens se sont rendus aux urnes aujourd'hui pour les élections présidentielles, législatives et locales. La campagne a été tendue, nous dit Claire Morin-Gibourg.
Le vote s'est déroulé dans le calme. En déposant son bulletin de vote dans sa ville natale de Kwekwe, dans le centre du pays, le président sortant, Emmerson Mnangagwa, surnommé le crocodile, a déclaré aux journalistes « Tous les candidats doivent se lancer dans la course pour gagner ». La commission électorale a reconnu que seuls 23% des bureaux de vote ont pu ouvrir à l'heure à Harare en raison de retards logistiques. « Notre victoire est certaine », a lancé le chef de l'opposition, Nelson Chamisa, après avoir déposé son bulletin de vote dans un quartier de la capitale. Quelques 6,6 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales. Le vice-président de la commission électorale, Rodney Kiwa, a rejeté les craintes d'irrégularité, les qualifiant de « purs produits de l'imagination ». Les résultats doivent être publiés dans les 5 jours suivant le scrutin. Pour être réélu, M. Mnangagwa doit obtenir la majorité absolue des voix, faute de quoi il devra se soumettre à un second tour.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants des BRICS examinent les règles d'admission de nouveaux membres au sein du groupe lors du deuxième jour de leur sommet à Johannesburg. Le président chinois Xi Jinping a appelé à l'accélération de l'expansion du groupe. Alexandre Noloyon nous en dit plus.
La Chine et la Russie, dont le président Vladimir Poutine assiste virtuellement à la réunion, veulent renforcer les BRICS dans le contexte des tensions accrues et de la rivalité croissante entre Pékin et Washington. Une quarantaine de pays dans le monde ont demandé leur adhésion ou manifesté de l'intérêt pour intégrer le Club des 5. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que le bloc devait donner toute sa place à la nouvelle banque de développement du groupe des nations BRICS et promouvoir la réforme du système financier et monétaire international. Par ailleurs, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie veut mettre fin à une guerre qui, selon lui, a été déclenchée par l'Occident et ses satellites en Ukraine, s'adressant par liaison vidéo aux dirigeants du groupe qui se sont abstenus de condamner les actions de Moscou en Ukraine. Il a répété le discours selon lequel la guerre a été une réponse forcée aux actions de Kiev et de l'Occident.
Ici aux États-Unis, le Parti républicain organise ce soir son premier débat pour l'élection de 2024. Favori des sondages pour l'investiture de son parti, l'ex-président Donald Trump sera absent du rendez-vous. Les précisions avec Mouamadou Oumfa.
Le débat est organisé à partir de 20h heure locale, 1h GMT jeudi, dans le Wisconsin. Il va opposer 8 personnes, dont le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, l'ancien vice-président Mike Pence, l'ex-ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley. Donald Trump sera absent, mais sera présent dans tous les esprits. L'ancien président américain a choisi de snober ce rendez-vous. Il doit donner au même moment que le débat de Milwaukee une interview à Tucker Carlson, l'ancien animateur star de Fox News, diffusé sur X, anciennement Twitter. Mardi, M. Trump a écrit sur son réseau Truth Social « Je serai très occupé, régalez-vous ». De nombreux républicains ont placé leurs espoirs dans la candidature du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, 44 ans, qui est perçu comme l'étoile montante de la droite dure. Mais sa candidature annoncée fin mai peine à s'imposer dans les sondages face à Donald Trump. Inculpé 4 fois en moins de 6 mois, l'ancien président écrase virtuellement toute la concurrence dans la course à l'investiture. Le vainqueur des primaires républicaines va affronter le candidat désigné par les démocrates, très probablement Joe Biden, à l'élection présidentielle le 5 novembre 2024.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et VOAfrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Au sommet des BRICS à Johannesburg, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a estimé que les 5 pays du groupe sont de puissants moteurs de la croissance mondiale. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a évoqué la capacité d'accorder des emprunts sur d'autres critères que le FMI. Le président russe Vladimir Poutine a défendu la transition vers les monnaies nationales pour les échanges entre les membres afin de s'affranchir du dollar dans les transactions internationales. En marge du sommet des BRICS, la société de développement industriel sud-africaine IDC a signé un accord de 530 millions de dollars sur 5 ans avec la Banque de Chine pour des projets dans les secteurs des mines, de l'énergie, des infrastructures et de l'agriculture. Un accord pour financer l'économie verte a également été conclu avec le Fonds de développement de la Chine pour l'Afrique. La communauté d'Afrique de l'Est a entamé hier à Nairobi des négociations sur l'adhésion de la Somalie. Elle devrait se concentrer sur les questions politiques, juridiques et économiques. Le marché élargi que l'admission de la Somalie entraînera donnera un coup de fouet au secteur privé, a estimé Rebecca Miano, secrétaire de cabinet du Kenya pour la communauté d'Afrique de l'Est.
Et c'est l'heure d'accueillir Bagassi Koura pour les dernières nouvelles de sport. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Les sanctions internationales frappent aussi les clubs nigériens.
Oui, la FENIFOOT, la Fédération nigérienne de football, affirme avoir informé la CAF du désistement des clubs nigériens en compétition interclub, notamment la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Cette décision, souligne la FENIFOOT, est motivée par les effets néfastes de l'embargo de la CDAO contre le Niger et qui entrave donc la libre circulation en ce qui concerne notamment la fermeture des frontières terrestres et aériennes. La FENIFOOT affirme qu'après avoir étudié toutes les voies et moyens possibles pour permettre à l'AS Garde Nationale et à l'AS Douane d'honorer leur rendez-vous africain, qu'elle s'est finalement résolue à cette difficile décision car les différentes solutions envisagées n'ont pas prospéré. La FENIFOOT rappelle que la CAF avait déjà décidé de la délocalisation des matchs à domicile de ses représentants à l'extérieur du Niger, vu la situation sociopolitique prévalant dans le pays, créant ainsi une difficulté supplémentaire, dit la FENIFOOT, quant à la recherche de stades de la sous-région qui voudraient bien mettre à notre disposition leurs installations, termine le communiqué.
Mon Dieu d'athlétisme, le phénomène Kipyegon, le show tambéré.
Oui, implacable, la Kenyane Faith Kipyegon a conquis lors du 1500 mètres pour la 3e fois au championnat du monde de Budapest, où l'Italien Gianmarco Tamberi a assuré le show hier soir. Meilleure coureuse du monde en ce moment, Kipyegon est sur un nuage en 2023 et continue de garnir un palmarès copieux. Après l'or aux mondiaux de 2017 et 2022, l'argent en 2015 et 2019, 2 titres olympiques en 2016 et 2021, la Kenyane a encore enrichi sa collection. Une évidence après s'être emparée cette année des records du monde du 1500 mètres, du 5000 mètres et du 1000.
Toujours, mon Dieu, d'athlétisme, victoire facile pour Richardson et Lights sur 200 mètres.
Oui, les Américains Sha'Carri Richardson et Noah Lyles, sacrés sur 100 mètres, ont passé sans encombre les séries du 200 mètres des championnats du monde de Budapest ce matin. Dans le centre national d'athlétisme hongrois, Richardson a dominé sa série en 22 secondes 16, meilleur temps de la matinée, le tout en freinant largement dans le dernier quart de la course. 4e du 100 mètres, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou a terminé dans sa foulée 22-26. La vice-championne du monde du 100 mètres jamaïcaine Sherika Jackson a également facilement dominé sa série. Sa compatriote Shelly Ann Fraser-Pryce ne s'aligne pas sur le demi-tour de piste. Les demi-finales auront lieu ce jeudi en début de soirée avant une finale vendredi à 21h40.
Merci Bagassi. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VO Afrique. John Linden, toujours en votre compagnie, place au dossier du jour. Et on commence par l'Afrique du Sud pour parler des BRICS. Le sommet des puissances émergentes des BRICS, qui comprennent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, est entré ce mercredi à Johannesburg dans le vif des discussions. Discussion centrée sur l'expansion du bloc qui veut étendre son influence dans le monde. Voilà côté officiel, mais dans les rues, il y a aussi des manifestations, comme nous le rapporte Gabriel Porémeto.
Le 15e sommet des BRICS s'ouvre avec des manifestations à quelques kilomètres du centre des congrès de Sandton, le quartier le plus riche d'Afrique, situé dans la ville de Johannesburg. Quelques Ukrainiens s'opposent à la présence de la délégation russe.
Nous sommes ici pour élever notre voix et livrer un message aux leaders des BRICS et à tous les invités qui sont au sommet. Nous souhaitons que la Russie retire ses troupes de l'Ukraine et arrête toute activité militaire dans notre pays.
À quelques mètres, des Éthiopiens sont venus eux aussi pour appeler les BRICS à sanctionner les crimes de guerre ayant lieu en Éthiopie.
Nous demandons aux BRICS d'arrêter le génocide de Amara.
Près du congrès, les routes sont fermées, les personnes contrôlées. Des centaines de policiers entourent le palais des congrès, abritant les dirigeants des BRICS. Des chefs d'État d'autres pays sont présents également au sommet, espérant intégrer le groupe, comme les dirigeants du Sénégal, de Cuba, d'Iran, d'Indonésie, du Nigeria et d'Arabie Saoudite. Certains d'eux sont accusés de limiter les libertés de leur pays.
Nous ne devons pas nous réjouir de cela. La plupart des dirigeants qui veulent rejoindre les BRICS, ce sont des oppresseurs de leur propre peuple. Ils ne respectent pas les droits humains les plus basiques. Ils peuvent être économiquement importants, mais nous ne devrions rien célébrer en tant qu'Africains, car nous sommes en train d'entrer dans une période vraiment compliquée pour les Africains, qui est surtout causée par les Russes.
Parmi les discussions centrales des prochains jours, l'expansion des BRICS, des investissements sur le continent africain et le développement d'une monnaie commune pour contrer l'hégémonie du dollar. Une thématique qui tient à cœur à Vladimir Poutine, présent virtuellement au sommet à cause de son mandat d'arrêt international.
L'objectif irréversible de la dédollarisation de nos relations économiques est en train d'obtenir un élan important et des efforts sont effectués pour développer des mécanismes efficaces pour des accords économiques mutuels et de contrôle monétaire. Résultat de cela, l'utilisation du dollar dans nos échanges d'import-export au sein des BRICS est en train de décliner.
Le sommet s'achève demain avec des débats concernant les modalités d'adhésion pour le pays voulant rejoindre les BRICS dans l'avenir. En 2024, ce sera au tour de la Russie d'accueillir ce sommet. Gabriel Porometo pour VOA Afrique, Johannesburg.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portail.
En République centrafricaine, la Cour constitutionnelle a validé lundi un projet de nouvelle constitution approuvé le 30 juillet par référendum à plus de 95%. La nouvelle loi fondamentale supprime la limite du nombre de mandats présidentiels et le prolonge de 5 à 7 ans. Un changement dénoncé par l'opposition qui accuse le président Faustin Akanji Touadéra de vouloir rester président à vie. Mais pour le pouvoir de Bangui, cette constitution inaugure une nouvelle ère pour le pays. Écoutons le point de vue du ministre centrafricain de la Jeunesse et des Sports et ancien chef des services des renseignements, Aristide Brian Ribois. Il a été joint par Mouamadou Oumfa.
Rappelons que la RCA est un pays qui a été marqué par de multiples implosions d'instabilité politique. Il y a eu des violences, des coups d'État, des conflits, etc. Tout ça là explique notre sous-développement. Mais il y a toujours eu deux causes, causes endogènes et exogènes. Mais nous savons très bien que c'est beaucoup plus la motivation sociale. Et donc, effectivement, cette constitution garantit effectivement la protection sociale dans sa quasi-totalité. Et c'est aussi, va aussi à la conquête de notre indépendance économique.
Ce qui change avec la nouvelle constitution, l'un des principaux changements, c'est le fait que le président Faustin Akanji Touadéra peut désormais être candidat autant de fois qu'il le souhaite. Est-ce que ce n'était pas cela l'objectif? Est-ce que le président Touadéra sera candidat? Est-ce que vous, vous souhaitez qu'il soit candidat?
Non, mais le problème, c'est que vous me posez la question pour le référendum. Aujourd'hui, on est en train de savourer la victoire. Peut-être le jour viendra où on va poser ces genres de questions. Et je pense que tout citoyen centrafricain devrait être mis devant ses responsabilités, y compris le président. Est-ce qu'il remplit les conditions d'éligibilité? Oui ou non? Est-ce que lui-même, il veut être candidat? Oui ou non? Est-ce que son parti va encore l'investir président ou candidat? Oui ou non? Donc ça, c'est tous des questions. Et moi, je ne suis pas dans sa formation politique. Je suis leader d'un autre parti politique. Je ne peux pas me permettre de répondre à la place des autres. Mais le moment viendra où la tête froide, toutes ces questions pourront être posées, toutes ces pistes pourront être explorées. Est-ce qu'il est président? Est-ce que sur le plan économique, sécuritaire, est-ce qu'il a posé des actes qui méritent que les Centrafricains lui passent encore à nouveau la confiance? Est-ce que lui, comparativement aux autres qu'il accuse de tout, de l'opposition, est-ce que qui est mieux que qui? Qui a plus de résultats que qui? Toutes ces questions, les Centrafricains, normalement, en peuple mature, se poseront le moment venu.
Est-ce qu'une nouvelle candidature du président Touadéra n'ouvre pas la voie à une instabilité plus prononcée?
La République centrafricaine, le potentiel chrysogène aujourd'hui est presque néant. Pourquoi? Parce que tout ce que nous, il y avait le pilotage à vue. Le peuple était loin de tout ce qui se passait. Le peuple n'est pas concerné, etc. Aujourd'hui, on a donné le pouvoir au peuple. Et voilà pourquoi je vous dis que cette constitution est un véritable paratonnerre. Parce que avant, qu'est-ce qui se passe? Souvent, un président peut prendre un décret et limoger de faire ceci, d'attribuer tel permis de telle à telle entreprise qui, en son tour, peut, voilà. Et donc, à chaque fois, quand les gens estiment que le président n'est plus utile, on trouve un idiot utile du système quelque part, qu'on pousse, on leur demande de venir faire le coup d'État et après il suffit de prendre encore sa plume et de changer la ceinture par un autre décret. Maintenant, c'est impossible.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Les Gabonais sont appelés aux urnes samedi pour les élections présidentielles, législatives et municipales. 3 scrutins en un seul jour, un défi que le gouvernement promet de relever. Mais sur le plan médiatique, le pays s'est barricadé contre les médias étrangers. Même sur le plan local, les journalistes dits indépendants sont confrontés à l'accès aux sources d'informations en cette période électorale, ce qui n'est pas le cas des professionnels des médias des services publics. C'est un reportage en immersion dans quelques salles des rédactions de Libreville avec notre correspondant Ismaël Obianzé.
Au siège de l'UNUC quotidien du pays, difficile de se tourner les pouces. Pour la couverture des élections du 26 août, la rédaction du journal L'Union est au taquet. Une équipe de veille filtre les informations brutes venant des correspondants et des envoyés spéciaux sur le terrain. L'objectif affiché, éviter le piège des fake news tout au long d'un processus électoral qui va au-delà de l'annonce des résultats. L'ingénieur Lindembe, directeur de la rédaction de L'Union.
Nous prenons assez de recul. On va publier, nous exploitons l'information parce qu'une rumeur peut toujours apporter une information au final. Nous avons le temps de vérifier.
À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Dans quelques jours, le Gabon a rendez-vous avec son histoire. Le pays organise simultanément 3 scrutins, une présidentielle, les législatives et les municipales. Un tournant inédit pour lequel la question d'accès équitable des candidats aux médias publics reste sur la table. Claudette Eworo, directrice des actualités de Radio Gabon.
Le seul problème que nous avons, parce que parfois certains candidats ne déclinent pas leur agenda, leur programme.
Ouvrir les élections de cette année au Gabon n'est cependant pas donné à tous les médias. Qu'ils soient étrangers ou locaux de droit privé, ils dénoncent des entraves à la liberté de la presse. L'organisation patronale des médias gabonais s'en plaint, mais sans succès. Télésphore Obama Gomo, président de l'OPAM.
Il y a comme une volonté, soit de dissimuler une vérité, il y a également à être amené à vouloir contrôler de bout en bout toute la chaîne d'information pour ne pas effectivement que tout ce qui pourrait constituer des dérapages ou des ratés ne puisse être servi à l'opinion publique.
Aux restrictions qui plombent l'exercice du métier s'ajoute aussi la précarité des professionnels des médias. Les plus vulnérables pourraient céder facilement à la corruption. Une triste réalité que déplore René-Paul Souzat, producteur télé.
Le journaliste ne peut plus servir véritablement l'information d'une manière évidente. C'est-à-dire, donc il y a l'influence, celui qui met de l'argent, il va donner une information qui est biaisée.
Et c'est de ce constat que naît le désamour entre la presse gabonaise et son public. Fulbert Metogué est un citoyen qui a mal à ses médias.
Aujourd'hui, pour être informé sur le Gabon, on est obligé de courir aux réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui s'y met. Le citoyen est obligé lui-même de faire le filtre.
L'impartialité du journaliste gabonais dans le traitement de l'information sera encore mise à rude épreuve. Avant, pendant et après le scrutin.
En fait.
Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Tout à côté, au Cameroun, le pays perd 3 400 milliards de francs CFA par an sur son PIB dans les produits d'importation. Une situation qui maintient la balance commerciale déficitaire alors que le pays ambitionne d'atteindre le statut de pays émergent en 2035. Depuis Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Le volume élevé des importations de produits de grande consommation constitue un obstacle majeur à la politique d'import-substitution du Cameroun. Simon-François Yonga Bakalak, coordinateur national du Centre des réseaux des filières de croissance.
Nous ne pouvons pas faire la substitution si nous continuons à polluer notre marché par des produits importés. Nous devons protéger le marché qui est le marché local. Le CRFC, par des études statistiques et économiques et les simulations d'autofinancement, montre par ce chemin que nous pouvons, à partir du marché, financer toute la chaîne de valeur jusqu'au niveau de la production, de la transformation et la commercialisation.
Secteurs dits prioritaires ont été identifiés par le Centre des réseaux des filières de croissance. Il s'agit des filières coton, textile, confection, bovine, laitière, aquaculture, bois, cacao, café, palmier à huile, manioc et oignon. Dina Youé Florian, promoteur de la filière manioc.
Nous avons besoin d'une transformation de manioc. Nous cherchons la subvention du CFC pour avoir une usine de transformation du manioc, une usine de transformation du tapioca.
Asmaou Amadadi est une promotrice de la filière tomate.
Notre usine va apporter une plus-value dans la région du moment où elle va employer plus de 100 emplois directs et 200 emplois indirects. À la fin, ça peut être quelque chose qui peut avoir plus de 1000 emplois.
La facture des importations de poissons surgelés au Cameroun s'élève à 136 milliards de francs CFA en 2022. Le financement d'une production industrielle locale peut satisfaire la consommation intérieure estimée à 500 000 tonnes par an. Émile Mvogo, promoteur de la filière poisson.
Il est question pour nous d'avoir un appui pour quitter de la fabrication de l'aliment de façon artisanale à une fabrication industrielle parce que c'est l'aliment qui est la composante qui pèse à 70% dans la production du poisson.
À l'issue d'une concertation organisée par le ministère de l'économie avec le secteur privé, les institutions bancaires locales, les promoteurs d'entreprises, les premières mesures ont été prises. Simon-François Yonga Bakalak, coordonnateur national du Centre des réseaux des filières de croissance.
Notre première action avec nos partenaires, nous avons fait des labos et nous allons faire des champs semenciers. Après les champs semenciers, nous allons passer au centre de production, toujours avec nos partenaires et l'accompagnement de l'État. Et nous allons passer maintenant à l'implantation des usines.
Le Cameroun espère passer la balance commerciale à moins 3% en 2030 contre 8% du PIB il y a 4 ans, selon l'Institut national de la statistique. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition réalisée avec la contribution de toute la rédaction. Présentation John Linden, production Georges Léonard Sagnot et Michel Joseph. Merci à vous d'avoir suivi et restez connectés sur notre site internet voafrique.com et sur nos pages Facebook, Twitter.